Restez avec nous, je vous propose une réécoute ce soir. Chain Gang, la voix angélique en 1960 de Sam Cooke, le premier chanteur soul de l'histoire et qui reste sans doute le plus grand. Chain Gang, c'est une expression qui désignait ces groupes de prisonniers enchaînés les uns aux autres, auxquels on faisait exécuter de durs travaux de terrassement ou de voirie. Alors le chanteur en tournée en avait croisé au bord d'une route et pris de compassion, il avait composé cette chanson pour leur rendre hommage. Sam Cooke, il a été le modèle de tous les chanteurs soul. Marvin Gaye, Otis Redding, Al Green, tous ils ont voulu l'imiter, sans parler des chanteurs blancs comme Mick Jagger par exemple. Sam Cooke avait commencé à chanter avec deux de ses sœurs et un de ses frères, au sein d'une formation de gospel vocal, hein, bien sûr, dans un quartier qui s'appelait Brownsville, c'était dans le sud de Chicago. Son père, qui gagnait modestement sa vie en faisant des ménages, était également un pasteur pentecôtiste. Alors, le pentecôtisme, deux mots là-dessus, c'est une branche du mouvement chrétien évangélique. Et pour ces gens-là, chanter le gospel, à la bonne parole, l'évangile, ça n'a rien d'un loisir. Il s'agit de s'élever vers un monde angélique, plus pur, où l'on va renaître une nouvelle fois, lavé de tous ses péchés. D'où ces voix hautes, ces voix d'ange, typiques du genre. Sam Cooke, jeune homme, chante donc si bien le gospel qu'il intègre, très jeune, un des quatuors vocaux les plus prestigieux du pays, les Soul Stirrers, les remueurs d'âme, on pourrait dire. Et comme ça, entre l'âge de 20 et 25 ans, il en est la voix et aussi la figure principale. Ce jeune homme a la voix d'or, au physique très viril, a un immense succès auprès des jeunes filles. Les Soul Stirrers vendent beaucoup de disques. C'est alors que surgit le tentateur, le serpent de la fable. C'est le chef d'orchestre et réalisateur artistique Bumps Blackwell. Cet homme travaille à Los Angeles pour le label Specialty qui diffuse les enregistrements gospel de Sam Cooke avec les Soul Stirrers. Et ce Blackwell a déjà fait des merveilles avec un autre chanteur venu du Sud, lui aussi, et formé au chant religieux, Little Richard, auteur, chanteur d'ailleurs interprète frénétique de classiques bien connus du rock'n'roll comme Tutti Frutti. Et Blackwell, il a une certitude. Si Sam Cooke chantait des chansons de variété séculière, il décrocherait la timbale. Alors convaincre le garçon, c'est pas trop dur, mais il y a un obstacle de taille. C'est qu'aux yeux et aux oreilles, surtout du public du gospel, mettre cette voix d'ange au service d'un répertoire séculier peut être pris au mieux comme une insulte, au pire comme un péché. Et dans un premier temps, le patron du label Specialty, pas spécialement courageux, craignant sans doute les ennuis avec la large communauté des croyants, laisse filer Sam Cooke, mauvais choix, la chanson que Sam Cooke a composée, You Send Me, une merveille orchestrée avec des chœurs, va être lancée par un label concurrent de Los Angeles et obtenir un succès colossal. Alors l'engouement est immédiat. Publié en septembre 1957, le disque atteint en deux semaines le numéro 1 des ventes tout public, se vendant à l'arrivée à 1,5 million d'exemplaires. C'est un phénomène encore très nouveau. Rare en tout cas à une époque où les marchés de la musique noire et de la musique blanche sont comme séparés, si vous voulez, par une ligne de démarcation. Et comme ça, du jour au lendemain, le chanteur de gospel Sam Cooke devient une pop star et la musique dite soul, la musique de l'âme, est née. Et son succès pendant plusieurs années ne se démentira pas. Il sera d'ailleurs en plus un des premiers musiciens noirs à créer sa propre marque de disques, laquelle lancera avec succès d'autres artistes comme notamment le chanteur Bobby Womack. Hélas, l'histoire de Sam Cooke s'est terminée de façon tragique. Un soir de décembre 1964, le chanteur, alors un homme marié, passe la nuit avec une prostituée dans un motel du quartier noir de Watts à Los Angeles. Il s'endort ivre-mort et se réveille au milieu de la nuit. Très mauvaise surprise, la fille lui a pris ses effets, son portefeuille et son argent. Foudrage, il sort de la chambre à moitié à poil et cogne furieusement à la porte de la gérante du motel pour lui demander des comptes. Et celle-ci, se sentant menacée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend son arme et sans hésiter lui tire dessus et le tue. Voilà. Sam Cooke avait seulement 33 ans. Alors on regarde ses photos, on voit un garçon au visage joyeux, confiant dans la vie, qui cachait ses déchirures comme beaucoup de ses chanteurs soul, au fond, si pudiques. At the dark end of the street, that's where we Ouf, les chutes étaient abruptes en ce temps-là. When a man loves a woman, c'est la chanson qui sans doute résume à elle toute seule ce qu'a été la musique soul du sud des États-Unis. Je vais vous en dire tout de suite quelques mots. Juste avant, The Dark End of the Street, c'est une chanson de 1967, moins connue mais tout aussi belle, du regretté James Carr. C'est un chanteur de Memphis, c'était à la voix aussi intense que celle de Otis Redding, qu'on retrouvera bien sûr tout à l'heure. Une chanson très touchante sur l'adultère, un grand thème de la musique soul comme de la musique country qui partage souvent le même répertoire. Les paroles évoquent le sujet d'une façon imagée et délicate, je cite « Au bout sombre de la rue, c'est là que nous nous retrouvons toujours, cachés parmi des ombres où nous n'avons pas notre place, vivant dans l'obscurité. » James Carr, victime d'une timidité pathologique et sur scène, comme je crois dans la vie, et d'une grande fragilité psychique, n'a hélas pas pu faire la carrière que son talent méritait. Et tristement, il est mort il y a une quinzaine d'années dans un quasi anonymat. Alors le fameux « When a man loves a woman », cette chanson a été le seul et unique tube en 1966 de regretter Percy Sledge. Au fond, en exagérant un peu, on pourrait même ajouter que cette chanson a été doublement un tube, puisqu'elle a été une des sources d'inspiration, je dis bien une, hein, et pas toutes, du fameux White Shade of Pale du groupe anglais Procol Harum, un succès mondial l'année suivante. L'histoire de When a Man Loves a Woman est assez drôle. Percy Sledge, il venait de la région de Florence, c'est au nord de l'Alabama. En gros, c'est à mi-chemin entre Memphis et Nashville. Ce garçon de la campagne, qui enfant ramassait le coton, aimait chanter dans les champs à gorge déployée. Il rêvait de devenir une star, mais en attendant la gloire, il s'était retrouvé père de 5 enfants à 25 ans et travaillait tantôt comme infirmier dans un hôpital, tantôt comme ouvrier du bâtiment. Un jour, un de ses copains lui avait proposé de chanter au sein de son groupe. Alors voilà, il se retrouve en tournée, et un soir, le pauvre Percy Sledge, en mal d'amour, c'est moi qui invente, je sais pas, en tout cas, il n'y a pas forcément besoin de ça pour picoler. Bref, il descend quelques verres d'alcool fort avant de monter sur scène. Voilà, il demande à ses musiciens de jouer en boucle une suite d'accords de leur choix, ça lui est égal, et que fait-il ? Il se met à improviser des paroles et une mélodie qu'il a en tête depuis l'enfance. Les paroles, comme ça, lui viennent au fur et à mesure, et voilà, la chanson est née. Elle sera enregistrée quelques semaines plus tard, selon une technique rudimentaire à Muscle Shoals. C'est une agglomération située au nord-est de l'Alabama, à égale distance, elle aussi, de Memphis, de Nashville, dans une usine de tabac désaffectée, transformée en studio. Et que se passe-t-il ? La chanson tape dans l'oreille d'un responsable artistique de la célèbre marque Atlantic à New York, Jerry Wexler, qui, à ce moment-là, jouait un rôle clé dans la propagation de la musique soul du Sud dans tous les États-Unis. Le succès est immense. Wexler en a parlé d'ailleurs dans ses mémoires, et voici ce qu'il a écrit. J'ai entendu des histoires sur des gens qui étaient au volant quand ils ont entendu cette chanson passer à la radio et sont rentrés dans le décor. Donc si vous conduisez, votre compagnie d'assurance ne pourra pas m'accuser de ne pas vous avoir prévenu. Voilà. Je vous propose à présent d'écouter la voix de celui qui a été le modèle de Otis Redding, le premier chanteur d'envergure à avoir enregistré à Muscle Shoals dans l'Alabama dès 61. Portier dans un hôtel, chanteur à 16 heures, Arthur Alexander a été le premier à créer cette fusion si particulière de gospel, rhythm and blues noir et musique country blanche qui a donné naissance à la soul du Sud. Ces chansons ont été reprises par les Beatles, les Rolling Stones, parmi beaucoup d'autres. On écoute donc Arthur Alexander dans son classique de 61, You Better Move On.
You asked me to give up the hand of the girl I love. You tell me I'm not the man she's worthy of. But who are you to tell her who to love? That's up to her. Yes, and the Lord above. You better move on. Well, I know you can buy her fancy clothes and diamond rings, but I believe she's happy with me without those things. Still, you beg me to set her free, but my friend, that will never be. Better move on. I can't blame you for loving her.
Now I'm getting mighty mad. You asked me to give up the only love I've ever had. Maybe I would, oh, but I love her so. Never gonna let her go. You better move on.
You better move on.
You better move on.
You better move on.
You better move on. You better move on.
Very Good Trip sur France Inter. Mishka Assayas.
When your baby leaves you all alone. And nobody calls you on the phone. Don't you feel like I'm crying? Don't you feel like crying? Well, here I am, honey. Come on, you're crying to me. The smell of her perfume. Don't you feel like a crying?
Don't you feel like crying? Don't you feel like a crying? Come on.
To come.
Cry to me, c'était la voix impressionnante de l'immense Solomon Burke. Je dis immense, et pas seulement par respect pour son talent qui était colossal, mais aussi pour sa stature impressionnante. Solomon Burke a été un de plus un des grands modèles du rhythm and blues britannique des années 60. Les Stones ont repris pas moins de 4 de ses chansons, dont celle qu'on vient d'entendre, qui a été d'ailleurs écrite par un homme clé de la soul new-yorkaise, Bert Burns. Bert Burns, c'est l'homme qui avait composé le célèbre Twist and Shout, qu'ont repris notamment les Beatles. Enfin, alors Solomon Burke, il a chanté le répertoire country aussi avec la même ferveur que le gospel et la soul séculière. Ce chanteur qui venait de Philadelphie, donc de la côte Est, était un des personnages les plus incroyables de la soul. Il avait commencé sa carrière comme enfant prêcheur dans l'église qu'avait créé son père. Son père, c'était un Jamaïcain, à la fois noir et juif, c'était aussi d'ailleurs le cas du regretté Sammy Davis Jr., qui plumait des volailles dans un marché cachère. Autoproclamé King of Rock and Soul, le roi du rock et de la soul, Solomon Burke se produisait en cape rouge au col d'Hermine, coiffé d'une couronne sertie de verroterie. Et jusqu'à la fin, et c'était de plus en plus exagéré d'ailleurs au fur et à mesure, quand je l'avais vu à Paris dans les années 2000, il pesait pas moins de 180 kilos. Il se produisait carrément assis sur un trône, ce qui était pratique pour lui parce qu'il était bien fatigué, et il était entouré de sa nombreuse famille. Il paraît qu'il avait eu 20 enfants. Je crois même qu'il avait un sceptre. Alors, autre aspect pittoresque du personnage, Solomon Burke dirigeait à la fois un service de limousine et une affaire de pompe funèbre. Alors, l'histoire ne dit pas s'il faisait des économies d'échelle en utilisant les mêmes véhicules. À présent, place à un autre géant, bien plus connu, lui.
« when a king breaks a window pane. Yeah, at night. Oh, you may be awakened by the sound. Downers for living the way we do. But when you burn the child of a poor man, they say the ghetto is the only place for. And I'm satisfied, oh, that there will be, ooh, for when they build, New Jerusalem, there won't be.
La voix de Mavis Staples, sans doute une des plus grandes chanteuses soul, en tout cas de la grande époque, encore en activité aujourd'hui d'ailleurs. On l'a entendu ici au sein de la formation vocale familiale des Staples Singers en 68 dans The Ghetto. Les Staples Singers ont travaillé à Memphis au studio Stax. Un employé de banque locale, violoniste country à 16 heures, Jim Stewart avait loué au début des années 60 un vieux cinéma qu'il avait transformé en studio d'enregistrement. C'est là que Otis Redding, qu'on a entendu juste avant, a enregistré ses chefs-d'œuvre accompagnés par la rythmique des MGs. Les initiales MG, ça voulait dire Memphis Group, et les Memphis Horns, les cuivres de Memphis, une association multiraciale tout à fait exceptionnelle dans le contexte très tendu de l'époque. Alors, à l'origine, les Staples Singers, c'était une formation de gospel animée à Chicago par un ouvrier sidérurgiste né en 1915, Pops Staples, un papa Staples, qui chantait et jouait de la guitare. Il était accompagné de ses trois filles chanteuses, dont la cadette Mavis avait la plus belle voix, une magnifique voix basse de contralto, magnifiquement voilée. Si vous demandez à Bob Dylan, comme à Prince, quelle est, selon eux, la plus belle voix soul en Amérique, ils vous feront la même réponse, Mavis Staples. Les Staples Singers s'étaient ouverts à tous les registres séculiers, blues, folk, rhythm and blues et bien sûr soul. Pops, le papa, donc il est mort à un âge canonique il y a une quinzaine d'années, mais Mavis continue à enregistrer des disques sous son nom, superbe. Je vous conseille d'ailleurs vivement celui qui est paru il y a une dizaine d'années, You Are Not Alone. Juste avant, la voix de Otis Redding dans All Man Trouble, une chanson extraite de son album le plus célébré, paru en 1965, Otis Blue. All Man Trouble, comme certaines de ses compositions, est une sorte de, au fond, de dialogue entre lui et une fatalité contre laquelle il se bat. En fait, il supplie cet All Man Trouble, ce vieux sort qui ne cesse de lui apporter des soucis, ici comme personnifié, d'arrêter de s'acharner contre lui. Contrairement à beaucoup de chanteurs soul, Otis Redding, vous savez, il composait lui-même ses chansons. Ce qui encore aujourd'hui, ses chansons, elles tranchent par leur originalité inimitable. On peut dire que il représente une vraie particularité, même un vrai miracle dans l'histoire de la musique soul. et de la musique populaire en général. Ce gars de la campagne, sorti du sud rural des États-Unis, timide et réservé, avait quitté l'école à 14 ans pour travailler, et pas travailler dans des choses faciles, il travaillait à forer des puits de pétrole. Il avait chanté dans une chorale baptiste, il rêvait lui aussi du destin de Little Richard, là, un chanteur sudiste passé avec quel succès du gospel à la musique séculière, et il arrivait à Otis Redding de chanter dehors la nuit pour s'exercer. Mais aussi, seul dans son coin, il avait appris le piano et composé ses propres chansons. Tout ça, sans en parler à grand monde. Et l'étonnant, c'est qu'un jour, il avait débarqué au studio Stax à Memphis, pour ainsi dire, sans prévenir. Il était arrivé comme chauffeur et manager d'un obscur groupe de rhythm and blues qui devait passer l'audition. Donc l'audition a lieu, et à la fin, Otis Redding, poliment, très timidement, suggère à James Stewart, le patron du studio, de l'auditionner lui aussi dans une de ses compositions, puisque de toute façon, bon, il reste un peu de temps et voilà, ça va déranger personne. Alors, il était comme ça, à la fois très timide et très sûr de lui, comme finalement beaucoup d'artistes. Et sa ferveur, sa fougue dans la supplication, tout ce qui lui venait du gospel, il était au fond le premier à les mêler à l'âpreté du blues le plus rauque et le plus viscéral. Et en plus, sur scène, il déployait une énergie pas possible, une énergie d'athlète, ce qui donnait à son personnage une singularité extraordinaire. Alors s'il y a un chanteur sur lequel son influence a été colossale, c'est certainement Bob Marley. Comme Marley, Otis Redding a eu, hélas, une vie brève, très brève, trop brève, puisqu'il a péri dans un accident d'avion en 67, alors qu'il n'avait, figurez-vous, que 26 ans. Et maintenant voilà, minuit va sonner.
I'm glad y'all came out here tonight. Baby, heavyweight. Oh,
In the Midnight Hour, la voix de Wilson Pickett dans son classique de 1965. Wilson Pickett, il avait passé son enfance dans le sud, l'Alabama, mais comme beaucoup de musiciens de blues, il avait dû monter à la ville, en l'occurrence Detroit, un Détroit où son père travaillait dans l'industrie automobile. Alors, il avait suivi le parcours habituel, chant à la chorale baptiste et passion parallèle pour le blues, le rock'n'roll et la musique séculière en général. Wilson Pickett a dû attendre quelques années avant de trouver sa voix et le succès qui ont tardé à venir. Un des responsables artistique de la compagnie Atlantic à New York, Jerry Wexler, toujours lui, a eu l'idée de l'envoyer à Memphis, enregistré avec les musiciens des studios Stax. Le résultat a été explosif, la fusion d'une énergie urbaine avec le swing tranquille, on dirait un peu peinard, comme ça, des musiciens de Memphis. On est à Memphis, et ben on va y rester avec une des plus belles productions d'un autre studio de Memphis, High, H-I, sous la direction du trompettiste Willie Mitchell.
Love and happiness. Yeah, something that can make you do wrong, make you do right. Yeah, love. Love and happiness. But wait a minute, something's going wrong. Someone's on the phone, 3 o'clock in the morning. Yeah, talking about how she can make it right. Yeah. This is when you really feel good about somebody. There's nothing wrong being in love with someone, yeah. Oh, baby, love and happiness. Make you do wrong.
Love and Happiness, la voix de Al Green, celui qui est peut-être le plus grand chanteur de l'histoire de la musique soul, après Otis Redding, bien sûr. La chanson remonte à 1972. Elle est sans doute une de celles qui représentent le mieux ce son velouté, tout en retenue, insidieux, un peu traînant, d'une rare sensualité propre à Al Green et au studio High. On s'aperçoit que ce style de ballade gospel, censé à l'origine rapprocher l'interprète de Dieu, suggère aussi avec un grand pouvoir de suggestion l'amour charnel. Pas besoin de comprendre les paroles. Ça s'entend. Al Green, comme nombre de ces chanteurs que vous avez entendus, est lui aussi passé de la musique religieuse à la musique séculière. Il avait chanté, comme beaucoup, le gospel en famille, puis fondé un groupe de rhythm and blues à Grand Rapids, c'est entre Chicago et Détroit. Jusque-là, tout est normal. Il est remarqué par le chef d'orchestre Willie Mitchell, qui le fait enregistrer pour un résultat absolument merveilleux avec les musiciens du studio High à Memphis. Mais il y a un moment où le parcours de Al Green devient étonnant. Un jour, en 1974, peut-être un soir d'ailleurs, à la suite d'une dispute, sa fiancée se précipite sur lui alors qu'il est dans son bain. Elle a une casserole pleine de gruau bouillant à la main et elle lui verse sur le dos. Après quoi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se tire une balle dans la tête. Sympa. Al Green, qui a vu sa mort arriver, voit dans cet attentat un avertissement divin. Brûlé à je ne sais quel degré, mais sauf, il décide alors de se faire pasteur pour servir la parole de Dieu. Et pendant plus de 20 ans, il n'enregistrera plus que des disques de gospel et ne reviendra à la musique profane qu'en 1993. On va écouter maintenant deux autres très belles voix soul. Elles viennent d'Amérique, au sens très large, mais pas du continent.
Sing it up, mister! Hey, what I say, sir, yeah. Yeah, no, 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 yeah. Get your hands in the air, sir! Woo! Yeah! Then you will get no hurt, mister! No, no, no! I said, yeah!
Yeah.
Jour d'esclavage, c'était la voix vibrante au milieu des années 70 du Jamaïcain Winston Rodney, alias Burning Spear, lance enflammée. Burning Spear venait, comme Bob Marley, de la petite ville de Saint Anne, c'est sur la côte nord jamaïcaine, un rasta comme lui, pénétré de cette foi chrétienne très particulière qui, entre autres, considérait l'Éthiopie comme une terre promise, d'où toutes les souffrances dont avaient été victimes les Afro-Américains descendants d'esclaves seraient vengées. Juste avant, une autre voix âpre, rugueuse et en même temps sensuelle, proche de celle de Otis Redding, elle aussi venue de Jamaïque, celle de Frederick Hibbert, alias Toots, qu'on a entendu dans un titre qui remonte à 1968, 5446 was my number, le chiffre 5446 correspondant à celui d'un détenu que Toots avait côtoyé en prison. Toots et son groupe, les Maytals, ont été très appréciés par de nombreux musiciens de rock, notamment ceux du groupe The Clash, qui avaient repris leur chanson Pressure Drop. On associe aujourd'hui le reggae purement à une musique de fête, de divertissement, ce qu'il peut naturellement être aussi, comme d'ailleurs le rock. Pourtant, le reggae, quand on l'a découvert en Europe dans la première moitié des années 70, avait, à mon sens, une toute autre portée. C'était une musique profonde, spirituelle, comme une variante insulaire et excentrique de la musique soul, qui permettait de découvrir des chanteurs emplis de ferveur, d'exaltation, qui vous transportaient dans un autre monde où l'on se sentait comme purgé de tous ces tourments et de tous ces maux. Alors, on a commencé ce programme avec Sam Cooke. Je voudrais le terminer avec une reprise d'une de ses chansons par les Neville Brothers, un groupe de la Nouvelle-Orléans, où l'on peut entendre une des voix les plus angéliques de la musique soul, celle de Aaron Neville. A Change Is Gonna Come, c'est la dernière chanson que Sam Cooke avait enregistrée avant sa mort brutale. Elle prophétisait à sa façon l'avènement d'une prise de conscience politique et sociale des Noirs américains qui allait advenir quelques années plus tard. On écoute l'interprétation qu'on a donnée à Aaron Neville en 1989.
I was born by the river in a little tent, oh, and just like the river I've been running ever since. Oh, it's been a long time coming, but I know change gonna come. Oh, yes, it will. I'm afraid to die. Cause I don't know what's up there beyond the sky. Oh, it's been a long time coming, but I know brother, help me please. But he winds up knocking me. To carry on. Oh, it's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will.
Version inoubliable de A Change Is Gonna Come, le classique de Sam Cooke interprété par la voix magique de Aaron Neville des Neville Brothers. Voilà, c'est tout pour ce soir. Tout de suite après les informations, eh bien vous retrouverez Langoumar et son côté club. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain, puisque la veille, le lundi soir, il y aura une soirée spéciale en direct du Studio 104 avec entre autres le duo Yell.